Le journal Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. La France commémore les victimes de la traite et de l'esclavage. La ville de La Rochelle va inaugurer aujourd'hui une statue représentant Clarisse, esclave noire du XVIIIe siècle. Nous reviendrons avec Julie Paco sur ce que l'on sait de cette femme, ce qu'elle représente et sur la manière dont on enseigne aujourd'hui la mémoire autour de cette époque. Et la journée de commémoration de l'esclavage, vous allez y revenir d'ailleurs, Aliette Ovine, dans la question du jour.
Nous verrons justement comment la traite humaine se perpétue aujourd'hui encore dans l'exploitation au travail.
Réponse à 7h15. Mais avant cela, nous irons aussi au Tchad, scène de liesse chez les soutiens du président sortant, le général Mahamat Idriss Déby, déclaré vainqueur de la dernière élection. Cela, dès le premier tour, son rival Succès Massra conteste les résultats provisoires. En Argentine, pas de bus, pas de train, 400 vols annulés. C'était grève générale hier. Deuxième mobilisation de ce type depuis l'élection de Javier Milei il y a 5 mois. Et puis, reportage à Kiev à l'approche des Jeux Olympiques auprès des gymnastes qui représenteront l'Ukraine et qui s'entraînent malgré la guerre. Honorer les victimes 3 siècles après leur servitude. Gabriel Attal se rend à La Rochelle ce matin. Le Premier ministre va présider à 11h une cérémonie de commémoration à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. C'est la première fois qu'une telle cérémonie se tient hors de Paris. La Rochelle, ville lourde de symboles, c'était le deuxième port négrier de France, juste derrière Nantes. 450 navires en sont partis pour déporter 160 000 hommes, femmes et enfants de l'autre côté de l'Atlantique. À l'occasion de sa venue, Gabriel Attal va inaugurer une statue monumentale dédiée à leur mémoire en bronze de 2 mètres de haut. Julie Paco, elle représente une esclave, une nourrice connue sous le nom de Clarisse.
Achetée à Léogane, ville de Saint-Domingue, devenue Haïti, avant d'être déportée à La Rochelle, Clarisse, esclave noire, fut nourrice au service des maîtres blancs et de leurs enfants jusqu'en 1794, où le conseil municipal de La Rochelle de l'époque décide de la franchir. Elle symbolise ainsi une histoire méconnue, celle des femmes esclaves nourricières que l'artiste haïtien Philippot a voulu mettre en lumière.
Clarisse a réellement existé, mais le but, c'est pas représenter Clarisse, c'est de faire reconnaître l'histoire des femmes nourricières qui allaitaient les petits blancs. C'est une sculpture de la victoire des opprimés contre les oppresseurs.
Une œuvre commandée par la ville de La Rochelle et installée dans l'espace public face à l'entrée du port où défilaient les navires négriers. Jean-François Fontaine est le maire d'hiver gauche de La Rochelle.
La relation de La Rochelle et l'esclavage, ça passe beaucoup par ce qu'on appelait Saint-Domingue à l'époque. Et donc il me semblait naturel que ce soit un artiste haïtien avec une autre dimension aussi. C'est que quand vous financez une œuvre de cette nature, je préfère que l'argent aille pour aider des familles haïtiennes que vers des artistes français ou européens.
Pour l'édile, si cette cérémonie d'inauguration en présence du Premier ministre participe au travail sur la mémoire de l'esclavage, l'État doit aujourd'hui changer de braquet, estime-t-il.
Il y a une dette que la France a à l'égard d'Haïti à travers cette somme considérable qu'on a demandé aux Haïtiens à l'époque. Il ne s'agit pas de la quantifier, mais il s'agit de dire que la France doit être présente demain pour aider Haïti.
Un appel à aider Haïti, co-signé par les maires de Nantes et Bordeaux, elles aussi anciennes villes négrières, que le maire de La Rochelle lancera ce matin à Gabriel Attal.
Ce travail de mémoire sur l'esclavage a été favorisé par la loi Taubira de 2001. La France reconnaît depuis la traite des esclaves comme un crime contre l'humanité. Le texte impose aussi l'enseignement de l'histoire de l'esclavage, mais sur ce point, cela reste incomplet, regrette Myriam Cotias, historienne, directrice de recherche au CNRS.
Face à l'histoire de l'esclavage, il y a encore cette frilosité, ou en tout cas cette peur d'une mise en accusation. Et c'est encore le cas, c'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage est encore traduite par une mise en accusation d'une partie de la population française. Il y a des implicites raciaux derrière tout cela, c'est-à-dire une partie de la population française qui s'identifierait ou qui serait identifiée comme blanche et qui serait mise en accusation par une partie de la population française qui s'identifie ou qui est identifiée comme noire. Et on n'arrive pas à poser l'histoire de l'esclavage comme un fait historique et qui doit être traité comme tel dans toute sa violence, toute sa domination, et aussi dans toute sa complexité. Il faut dégager l'histoire de l'esclavage de sa dimension morale. Et c'est ça qui va permettre aussi d'en parler plus sereinement.
L'historienne spécialiste de l'esclavage Myriam Cotias, c'était un dossier réalisé par Julie Paco. Le ministre de la Santé est lui à Mayotte depuis hier. Frédéric Valletoux a déploré la mort d'un enfant de 3 ans tué par le choléra jeudi. C'est le premier décès lié à la maladie sur l'île. Mais il veut rassurer, je le cite, « la propagation est contenue, nous ne sommes pas dans un phénomène d'épidémie non maîtrisée ». Deux policiers grièvement blessés dans la nuit dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris, attaqués par un homme qui venait d'être interpellé et qui avait subtilisé l'arme d'un agent. Il a également été blessé et hospitalisé.
France Culture, il est 7h05, le journal Diane Berger. Et au Tchad, les résultats de l'élection présidentielle sont tombés hier soir.
Oui, le président sortant, le général Mahamat Idriss Déby, est proclamé vainqueur dès le premier tour avec 61% des voix, après un duel inédit contre son premier ministre, succès Masra. Alors, ces résultats doivent encore être confirmés par le Conseil constitutionnel, mais sur place, à N'Djamena, chez les partisans du président, c'est la fête au son des armes automatiques à Amaury Auchard.
Il n'a suffi que de quelques secondes après l'annonce de la victoire de Mahamat Idriss Déby pour que les tirs commencent à retentir dans N'Djamena. Ousmane Ismaël, blogueur, attend que cela se calme pour rentrer chez lui à moto.
Maintenant, on entend des balles réelles. Les militants de la coalition Tchad Unie expriment leur joie. Et malgré la décision qui a été donnée par le SEMGA, le chef d'état-major, pour interdire à la population de faire des tirs de balles réelles, force est de constater que voilà donc nous vivons. C'est ça le Tchad.
À quelques minutes de là, dans une cour d'un bureau de campagne, les enceintes sont à leur maximum. Un chanteur est sur scène et, accompagné d'un synthé, il harangue la foule. Juste à côté, Abdel Nasser Garboa, responsable politique et soutien du président.
C'est une joie immense parce qu'on a battu durant 3 semaines harassantes une campagne qui nous a amené dans les 4 coins du Tchad, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre.
Mais pas un mot sur l'opposant Succès Masra qui a recueilli officiellement quelque 18% des suffrages mais revendique la victoire. Quand on les interroge, comme Oumar, les militants bottent en touche.
Non, ce soir seulement j'ai pas les mots à exprimer. Vu que tellement je suis pas de l'émotion et je suis tellement ravi et je suis tellement ravi de voir la victoire.
À minuit, heure locale, les détonations résonnaient toujours dans la capitale du Tchad.
Amaury Auchard, qui évoquait à l'instant Succès Masra, l'opposant, conteste la victoire de son rival. Avant même la proclamation des résultats officiels, il avait accusé le camp Déby d'avoir truqué les résultats. L'Argentine paralysée hier, journée de grève générale, c'est la seconde depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei il y a 5 mois. Une mobilisation à l'appel des 3 plus grands syndicats du pays, dont la CGT, la Confédération Générale du Travail de la République Argentine. Ils protestent contre les licenciements dans la fonction publique et la perte du pouvoir d'achat. Le reportage dans les rues de Buenos Aires de notre correspondante Caroline Vic.
Un jeudi aux allures de dimanche dans les rues de Buenos Aires. Pas de bus, les petits commerces aux rideaux de fer baissés, postes, banques et écoles fermées. Un succès pour Hector Daher, secrétaire général de la CGT, hier en conférence de presse.
On a fait la grève parce que l'ajustement pèse sur les retraités et sur les plus vulnérables. Cette grève a été un succès et ça doit attirer l'attention des autorités qui devraient changer de politique pour stopper la casse sociale de ces derniers mois.
Pour Manuel Adorni, le porte-parole du gouvernement, au contraire, cette grève nuit aux travailleurs.
C'est une grève nettement politique, incompréhensible et insensée, car beaucoup de gens qui vivent dans la misère ont besoin d'aller travailler pour manger chaque jour. Cette grève est donc un attentat contre leur économie quotidienne et leur liberté.
Et depuis l'arrivée de Milei, 15 000 fonctionnaires ont été licenciés et l'inflation est de 55% rien que pour 2024. Mais le président, fort de ses 50% d'images positives, compte poursuivre son ajustement. La CGT, elle, envisage déjà une nouvelle mobilisation pour la fin du mois.
Caroline Vic à Buenos Aires. L'Égypte appelle le Hamas et Israël à faire plus de flexibilité et au plus vite. Les dernières négociations au Caire n'ont pas abouti. Pour l'instant, les délégations des deux camps sont reparties sans accord sur une trêve éventuelle. Et selon le Hamas, la balle est entièrement dans le camp d'Israël désormais. Le cessez-le-feu qui se fait attendre alors que dans la bande de Gaza, les combats continuent. Des tirs d'artillerie ont été signalés tôt ce matin dans les alentours de Rafah. Et hier soir, l'armée israélienne a annoncé que 3 de ses soldats ont été blessés dans un tunnel piégé. De son côté, l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, annonce fermer ses bureaux à Jérusalem-Est. Selon son dirigeant, des extrémistes israéliens ont tenté d'y mettre le feu. La guerre à Gaza et ses répercussions jusqu'à l'Eurovision, le concours européen de la chanson en Suède. Israël s'est qualifié hier pour la finale, malgré les protestations de 12 000 manifestants rassemblés au même moment à Malmö qui demandaient l'exclusion du pays. La candidate israélienne Eden Golan a dû modifier les paroles de son titre « Hurricane » en raison d'allusions explicites à l'assaut du Hamas du 7 octobre qui allait à l'encontre des règles de la compétition. Autre compétition internationale percutée de plein fouet par l'actualité géopolitique, c'est évidemment les Jeux Olympiques de Paris. Alors que le relais de la flamme olympique a commencé hier à Marseille, les athlètes ukrainiens se préparent. Depuis le début de la guerre, beaucoup de sportifs de haut niveau ont dû partir s'entraîner à l'étranger. Mais ce n'est pas le cas de l'équipe nationale de gymnastique. Elle a mis un point d'honneur à rester en Ukraine et elle s'exerce en ce moment dans une salle en plein centre de Kiev, la capitale ukrainienne. Virginie Pironon a pu assister à leurs préparatifs.
À 20 ans, Victoria Onoprienko est une des meilleures gymnastes d'Ukraine. Son père, en ce moment, se bat sur le front. Elle a perdu plusieurs proches qui se battaient près de Bakhmout. Les traits tirés, la jeune fille termine son entraînement du jour au bord de l'épuisement. La veille à Kiev, les alertes aériennes se sont succédées de 3h à 6h du matin.
J'ai eu très peu de temps pour récupérer et pour dormir. Bien sûr, c'était difficile de travailler aujourd'hui parce que mon corps est épuisé. Le stress me prend beaucoup de force.
Victoria Onoprienko est entraînée par une star de la gymnastique soviétique. Irina Deryugina, championne du monde en 77 et 79, nous reçoit au milieu de ses trophées le trident ukrainien, symbole du pays, bien en évidence.
Un bon nombre de nos filles sont parties. Ça fait mal au cœur.
Ce
n'est pas des conditions. Beaucoup de sportifs s'entraînent aujourd'hui à l'étranger. Mais la gymnastique, elle, elle est restée en Ukraine.
Si elle n'est pas idéale, au moins c'est notre salle, dans notre pays. Une immense fierté pour Irisha Blorina, la fille d'Irina Deryugina, qui entraîne également cette équipe, car c'est aussi une histoire de famille.
Une des choses les plus effrayantes, quand je suis arrivée ici, dans cette salle, c'est que c'était vide. Pas une âme qui vive. C'était effrayant car on savait qu'on ne ferait pas revenir tout le monde et qu'on ne reverrait peut-être pas cet esprit, cette vie que vous avez vue aujourd'hui. Tout ça, c'est le grand succès des entraîneurs, de notre équipe, de tous ces gens courageux qui sont revenus, et en particulier ma mère, qui a dit « on ne laisse pas tomber ».
Le visage grave, la jeune Victoria Onoprienko assure qu'elle portera à Paris les couleurs de l'Ukraine avec une immense fierté.
Oui, bien sûr, je vais le faire pour nos soldats, pour tous les défenseurs qui nous protègent et nous donnent la possibilité de nous lever chaque matin et de continuer à vivre.
La Fédération ukrainienne de gymnastique a déposé des recours pour empêcher les gymnastes russes de participer aux Jeux olympiques de Paris, même sous bannière neutre.
Un reportage à Kiev de Virginie Pironon. Le gouvernement brésilien promet de débloquer l'équivalent de 9 milliards d'euros pour reconstruire l'état du Rio Grande do Sul, dévasté par les inondations sans précédent. Au moins 107 personnes sont décédées, 134 sont portées disparues et les intempéries ont forcé l'évacuation de 327 000 personnes. Et puis le tiers seulement des aires marines protégées offre une réelle protection. Conclusion d'une étude publiée dans la revue Conservation Letters. Cela représente donc 2,6% de la surface totale des océans seulement, bien loin des engagements pris par la communauté internationale, arriver à 30% de protection effective d'ici 2030. Enfin, un mot de la météo en France. Le soleil s'installe sur une large partie du pays et les températures sont en hausse. Les minimales sont comprises ce matin entre 6 et 15 degrés, mais cela va monter ensuite entre 22 et 25 sur la moitié nord, 27 sur la moitié sud, voire parfois 29 en Aquitaine. Quelques nuages sont attendus en revanche sur le massif central et les Alpes avec des averses possibles dans l'après-midi. Et maintenant, je vous laisse avec Quentin Lafay pour les matins de France Culture.
Merci beaucoup Diane Berger. Dans quelques instants, la question du jour d'Aliette Ovine. Comment la traite humaine se perpétue-t-elle dans l'exploitation au travail ?